tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va.
Pour en connaître beaucoup de garçons, la plupart, en tout cas moi, de ceux que je connais, ils ont des encours. Des encours, ouais, je vais appeler ça des encours. C'est-à-dire qu'ils ont 5-6 nanas qui côtoient, qui draguent, ou 10 qui draguent, ils sont à la pêche à la ligne. Ils ont posé des lignes et ensuite ils attendent la fruit de leur pêche, de leur récolte. Donc s'ils te draguent toi aujourd'hui, il va être moins pressant que ce que tu peux imaginer parce que pendant ce temps-là, il a d'autres nanas. Peut-être toute la journée il t'a écrit et ce soir il va se faire une autre nana.
En amont de cet épisode, j'ai une petite annonce à vous faire, je monte ma boîte. Promis, je ne vendrai pas vos datas, je veux juste vous faire participer à mes évolutions si vous le souhaitez. Donc si ça vous intéresse, envoyez-moi votre adresse email via Instagram, en inbox, sur le compte du podcast qui s'appelle Réel Podcast. En parallèle, encore une fois, un immense merci du fond du cœur parce que le podcast prend une proportion à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Donc je vais faire tout mon possible pour le continuer en parallèle de mon entreprise, mais vraiment du fond du cœur, merci pour votre soutien et votre chaleureuse présence. Alors maintenant, je passe à l'invitée de la semaine en vous disant qu'elle est drôle. Elle est vraiment très très drôle. Elle est entrepreneuse, elle n'a jamais donné d'interview. Je l'ai repérée sur Instagram parce que l'humour, selon moi, est la plus belle des formes d'intelligence. Je lui ai écrit et elle m'a dit oui. Avec elle, on a parlé de son parcours, des petits jobs qui apprennent beaucoup sur soi et sur la vie, de son entreprise, de sa vision des relations sentimentales à l'heure des réseaux sociaux, de fidélité, de la bêtise humaine et du racisme, ça va ensemble, d'écologie, des enfants et de ce qu'ils ont à nous apprendre, de la colère, de la compétition vis-à-vis de soi, de ce qu'une femme peut observer et faire dans un milieu masculin, de son futur spectacle, et du remède par l'humour en toutes circonstances, y compris la mort d'un proche. Je vous préviens, j'ai hésité longuement au montage car je pleure dans l'épisode. Bah oui, j'ai pas pu me contrôler. Elle m'a fait beaucoup rire, mais elle m'a aussi fait pleurer donc. Alors maintenant, j'arrête de parler. Et je laisse la parole à la formidable Sarah Connard, du même nom que son compte, Sarah Connard.
Sarah, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Je suis très honorée, parce que je sais que tu donnes pas d'interview, et c'est un peu ce que tu m'as dit avant qu'on mette le bouton on de l'enregistreur. Donc je suis d'autant plus honorée, et vraiment ravie parce que je suis ton compte avec attention, et je suis fan, voilà.
Merci beaucoup à toi, déjà. Je suis toujours un peu surprise qu'on me suive. Hein.
Ouais. Bah pourtant, t'as quand même 40 000 et quelques personnes, je crois, non?
Ouais, enfin, les nanas de la télé-réalité, elles sont à 700 000. Donc, si tu veux qu'on parle de ça, je suis pas sûre que ça soit tout de suite, en l'occurrence, que ça représente quoi que ce soit. Je suis hyper flattée, mais... C'est, je fais que raconter des blagues encore et toujours.
Alors justement, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter juste, voilà, perso, pro, juste te présenter. Comment tu te décris aujourd'hui?
Ben, Sarah Connard, ouais. Voilà, je suis la présidente autoproclamée de la Fédération Française de Connard, que j'ai créée, évidemment. Je raconte des blagues. J'essaie de rire de tout, tout le temps. Voilà. C'est juste mon leitmotiv au quotidien. Et je le partage avec les gens, parce que mes amis étaient fatigués que je le partage avec eux. Donc tout le monde est content, a priori.
Et tu fais ça depuis quand, déjà?
Maintenant, ça va faire 3 ans, je crois.
Ok.
3 ans. Oui, 3 ans. 3 ans, et au départ, j'ai, comme tout le monde, je dois avoir une 15aine d'abonnés.
Et le truc a pris.
Mais
est-ce que tu sais pourquoi il a pris?
J'ai ma petite idée, parce que des gens connus m'ont suivi.
Ouais.
Donc des artistes. Un des premiers, je crois que c'est Joestar, qui ensuite partage mes posts. Et ça prend vite de l'ampleur. Puis j'ai...
Et tu le connaissais précédemment ou
Pas du tout.
Okay.
Pas du tout, je le connaissais pas.
T'as juste repéré sur Instagram.
Oui, j'ai commenté un ou deux de ses posts où lui aussi partageait un peu ses humeurs et des blagues. Et du coup, j'ai commenté en faisant une blague. Et du coup, il est revenu sur mon compte ensuite.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de d'où tu viens, ce que tu as envie de raconter, hein, pas forcément tu vois des trucs perso, mais juste d'où tu viens, c'est quoi ton parcours et dans les grandes lignes.
Je suis pas parisienne, c'est ouais. important, je crois. Ouais. Je suis une provinciale et fière de l'être. Je viens d'un petit village de 1500 habitants dans l'Yonne. Mmh. Donc l'Yonne, pour les gens qui connaissent pas, c'est connu pour Émile Louis et Giroud, voilà. Et le Chablis pour
exact,
les autres.
Exact,
voilà.
Ouais, ouais.
Donc quand je présente ma région, c'est ça. Et donc à côté d'Auxerre, et j'ai grandi dans une famille, tout ce qu'il y a de plus classique, je crois, dans le schéma, papa, maman, j'ai un grand frère. Ouais, j'ai grandi à la campagne, dans un pavillon, avec une vie assez normale et douce. Voilà, douce avec ce que ça peut comporter de vivre à la campagne, des activités d'une petite fille un peu à la Heidi, quoi. J'ai grandi dans les champs, voilà, je faisais beaucoup de sport, j'ai fait de la musique.
Ouais, quoi comme musique ?
Je faisais du saxophone.
Génial !
Pas très
jeune ? T'as fait ça jeune ?
Ouais, à 6 ans.
Ah ouais ? Saxo,
non, je raconte des conneries. Non, un petit peu plus tard, je crois. 8 ans, je crois. J'ai commencé le solfège. Et ensuite, on m'a demandé quel instrument j'aimerais jouer. Et j'aimais beaucoup Manu Dibango.
Ouais.
Donc, du coup, j'ai demandé à faire du saxophone et j'ai arrêté assez vite. J'aimais pas mon prof. Et je faisais tout au feeling, donc je l'aimais pas et c'était assez pour pas en faire plus. Voilà, donc après j'ai fait beaucoup de sport.
Okay.
J'ai été élevée au
c'était
sport,
quoi,
c'était pas le choix. Là par contre à 6 ans, voilà, mes parents m'ont inscrite au tennis, au basket et au judo.
Ok, c'est complet.
Voilà, c'est ça. Et donc je pense que mes parents se sont dit qu'il fallait multiplier les activités pour que j'ai pas le temps de faire autre chose.
Beaucoup de parents se sont dit ça, je pense. Ça a fait des enfants, ce qu'on appelle des enfants hyperactifs. J'aime pas trop ce terme non plus, mais c'est vrai que ça. Il y a beaucoup de parents qui ont élevé les enfants comme
voilà,
ça.
Voilà, bah moi j'ai eu droit à ça et je pense que c'était un bon calcul parce qu'à l'adolescence,
ouais,
quand,
aussi,
quand
ouais.
les.
Tu peux vriller.
Voilà,
ouais.
je faisais des conneries, aller fumer des clopes sur la place de l'église.
Ou,
moi j'avais pas le temps, j'étais.
Mais je trouve ça top, hein.
Je faisais
non, non, mais je critique pas du tout. Il y a des gens aujourd'hui qui disent oui, on a été habitués à ne pas s'ennuyer. Oui, mais en même temps, tu vois, c'était peut-être positif.
Voilà, et ensuite, je suis allée à. Voilà, j'ai eu un parcours scolaire normal. Je suis allée à la fac. J'ai passé plus de temps en boîte de nuit que sur les bancs de la fac, évidemment.
C'était quoi comme fac ?
Fac de droit.
Ouais.
Je voulais être avocate. Et je suis pas allée au bout, mes parents m'ont rapatrié au bout d'un moment en se disant que ça allait leur coûter très très cher de me payer des études de discothèque. Et donc du coup ils ont vite arrêté l'hémorragie. Et donc du coup j'ai fait un DUT tech de co et j'ai vite commencé à bosser finalement.
Et t'as fait quoi ? Tes premiers jobs c'était quoi ?
Premier boulot c'est pendant que je fais mes études. Mon père se dit que je vais beaucoup trop en discothèque donc il me met en... me fait un cadeau, me dit vu que t'aimes la boîte, ma fille, je vais t'offrir une discothèque.
Comment ça ?
Bah, il avait quelqu'un qui cherchait un gérant de discothèque dans ses contacts. Donc à 20 ans, il m'a mis dans les mains une discothèque. Il m'a dit vu que t'aimes ça, danser et faire la fête, bah, tu vas la faire mais chez toi et puis tu vas gagner de l'argent en même temps.
C'est un beau cadeau ?
Non, c'était un cadeau empoisonné. Je pense que c'était le moyen de plus me voir sortir trop. Et effectivement, il a eu raison. Ça m'a calmé un temps. Je suis passée de l'autre côté de l'envers du décor. Et effectivement, c'est moins funky de bosser derrière.
Ça, c'est sûr. Tous les gens qui bossent dans la nuit te disent que c'est un enfer.
Voilà.
Enfin, pas un enfer, mais que c'est dur.
Ouais, et puis tu bois pas, tu fais pas la fête, tu contrôles tout. Enfin, les gens sont sympas à 22h et beaucoup moins à 3h du matin. Donc non, mais c'était instructif. Et donc, pendant mes pauses en cours, quand j'avais pas cours une heure, j'avais collé des affiches pour ma soirée du week-end. Donc c'était instructif, voilà, c'était une bonne école, je crois. J'ai eu mes diplômes, ensuite j'ai...
Et après, t'as fait quoi ?
Et ensuite, je suis partie. J'ai fait une école de vente. J'avais envie de le dire parce que je pense que les gens devraient faire ça quand ils veulent faire de la vente. J'ai fait du porte-à-porte chez cas par cas. J'ai vendu des fenêtres.
Non.
Bon, j'ai jamais vendu une seule fenêtre. Mais j'ai appris la vente en entonnoir. J'ai appris le refus. J'ai appris à essuyer un refus et pas me mettre à pleurer. Ouais. Parce qu'on allait frapper aux portes des gens qui nous prenaient pour des témoins de Jéhovah. Et ça, c'était dur, les témoins de Jéhovah. On est chrétiens, dégagez. Et du coup, on dit non, mais on n'est pas témoins de Jéhovah, on vend des fenêtres. Bah pareil, cassez-vous de chez moi. Donc ça, c'était...
Pareil.
Voilà, dégagez. On a l'impression de faire le mône et c'était une bonne école. Vraiment, c'était une bonne école de vente. Je regrette pas, c'était instructif. Ouais. Donc évidemment, je me suis fait virer au bout de 3 mois parce que j'ai rien vendu. Mmh. Et ensuite, j'ai bossé dans les assurances.
Ok.
J'ai bossé dans les assurances. Ouais, j'étais assureur pour les métiers de bouche.
Ok.
En général, j'avais droit à des rires par les commerçants quand je disais ça. Bah, une femme qui dit métier de bouche.
Oui.
Voilà, les plus lourds rigolaient grassement. Et du coup, j'ai fait ça quelques temps aussi à Lyon, cette fois-ci. Pour des raisons personnelles, je suis retournée à Auxerre. Je devais retourner auprès de ma famille. Et quand je suis revenue à Auxerre, je ne trouvais pas de boulot dans ma branche. Et ayant grandi dans la sécurité, j'ai ouvert une boîte de sécu.
Dans la sécu, tu veux dire que tu avais des proches qui bossaient dans la sécurité ?
Mon père était videur pendant 30 ans. Donc,
ça peut un peu expliquer ton attrait pour le monde de la nuit.
J'ai grandi en boîte de nuit. Voilà. Donc mes parents pensaient qu'en allant en boîte à 6 ans faire mon anniversaire, j'allais vite j'ai jamais lâché ce truc, ils m'ont piqué tôt et ça s'est jamais arrêté. Donc voilà, je suis revenue de Lyon à Auxerre, j'ai ouvert ma boîte de sécu.
Ta boîte.
Avec mon frère, ouais.
OK.
En concurrence avec mon père. J'ai pas travaillé avec mon père.
Mais vous faisiez la même chose.
Oui. Okay. Mais lui, il allait sur des trucs un petit peu plus dangereux et c'est une question de positionnement aussi. Il y avait de la sécu pas chère et il y avait de la sécu très très chère, c'était mon père.
Okay.
Et j'ai choisi le positionnement intermédiaire qui n'existait pas vraiment.
Ok.
Voilà, donc j'ai fait de la sécu.
Combien de temps t'as fait ça ?
J'ai toujours ma société.
Mais non. Voilà. Excuse-moi, je savais pas. Bon, en même temps, c'est pas très visible, mais
j'ai pas de problème avec ça.
Donc tu l'as encore, tu la gères encore.
Ouais.
Ok, c'est cool.
J'ai fait du gardiennage dans les magasins. Mmh. J'ai fait des événementiels. Mmh. J'ai fait de la discothèque. Mmh. J'ai fait des bars. J'ai fait tout ça en tant que portier, puisque j'étais persuadée que en tant que je suis toujours persuadée d'ailleurs qu'en tant que femme et dirigeante, c'est dans un milieu d'hommes. Si je voulais expliquer à mes agents que le job, ou en tout cas ça serait plus simple pour eux si je faisais le job. Je crois à l'exemplarité, donc le meilleur moyen d'avoir une autorité sur eux et une légitimité, c'était de faire partie du.
Mais c'est clair. C'est clair.
De la sécu, du vrai monde de la sécu. Donc j'ai mon CQP, l'autorisation de faire de la sécu, et j'ai fait de la sécu.
Voilà. Ok. Bravo. Non mais vrai, bravo, parce que c'est rare, quoi. Enfin, c'est dans ce secteur-là, j'en connais un peu, tu vois, de gens qui font ça, mais c'est rare. Une femme à la tête d'une boîte qui fait ça, c'est rare.
Il y en a de plus en plus.
Ah ouais ?
Moi, il y en a de plus en plus, mais c'est souvent des maîtres chiens. Après, il y en a quand même, et je pense qu'il devrait y en avoir plus parce que, par exemple, dans les magasins, ou même sur les gros événements, les femmes, on est quand même très méticuleuses, très observatrices, et je pense que c'est le propre d'un agent de sécu.
On voit des trucs que les mecs ne voient pas forcément.
Évidemment, comme au quotidien, comme pour tout. Effectivement, il devrait y avoir plus de femmes dans la sécu.
T'as commencé à lancer ce compte, Sarah Connard, le compte Insta.
Ouais, j'étais à Auxerre et je faisais de la sécu.
Ok. Et c'est parti de quoi ? C'était quoi le déclic, en fait ?
C'est vraiment, c'est pour les copains. Ça nous fait rire entre nous. Et puis la Fédération Française de Connard, je la crée pour eux.
D'accord.
C'est-à-dire que tous mes potes entre eux, comme souvent les mecs, parce que mes copains sont tous des grands barbus basketteurs, parce que je suis basketteuse, donc je traînais avec une équipe de garçons. Mmh. Ils s'appelaient tous entre eux Connard. Et salut Connard, yo Connard, voilà. Okay. Et donc du coup, pour l'enterrement de vie de garçon de mon meilleur ami, je suis le témoin, je crée des t-shirts avec écrit Fédération Française de Connard.
Juste techniquement, fédération, t'as vraiment créé une fédération genre légalement
créé les statuts.
D'accord, ok.
Ouais.
Non mais ça c'est juste un détail. Donc l'impulsion, ça a été quand même ta base, tes potes, et de les entendre et de les observer et d'essayer de comprendre un peu ce qui se passait dans la tête des mecs ou pas du tout ? Ou ça a juste été...
J'ai vite la sensation d'être une privilégiée auprès des garçons. Mmh. C'est-à-dire qu'ils se cachent de rien devant moi. Donc,
ado, tu fais partie des potes, en fait.
Ouais. Mmh. Je suis un mec, je suis le pote sans nichon. Donc, il parle devant moi sans filtre, aucun. Mmh. Je couvre les infidélités de mes copains. Mmh. Je fais tout avec eux. Je vois tout, en fait. Je vois leurs copines, on change de copines. Et j'entends surtout les off que nous, les filles, on n'entend jamais. Et là, je me rends compte qu'il y a un monde. Et je m'en rends compte un peu plus sur Instagram. Quand je poste de l'humour de garçon, on va dire ça comme ça, je me rends compte que les filles, certaines apprennent des choses en disant oh, « Mais non, ils disent pas ça, c'est bien sûr, ils disent ça. » Si, si, évidemment. Et les garçons m'envoient un MP souvent. T'es une traître, tu balances tous nos secrets. C'est vrai, d'ailleurs, j'avoue. Hein. Je reste une meuf, donc je suis assez solidaire des femmes.
Alors ouais, justement, je voudrais venir parce que t'en penses quoi aujourd'hui ? Quelle est ta vision au sens large, tu vois, des relations hommes-femmes aujourd'hui ? Réseaux sociaux inclus, hein, j'entends.
Je trouve ça compliqué.
Ouais.
Vraiment. C'est le mot qui me vient tout de suite. C'est compliqué. Tous nos rapports sont compliqués, tous nos rapports sont faussés, tout va très vite. Instagram, c'est un peu du Tinder masqué. On est tout le temps stimulé. Non, je trouve que nos rapports sont durs et je plains les garçons. Alors autant je suis complètement solidaire des femmes, autant je plains les garçons. Je trouve que c'est compliqué pour aujourd'hui. On a des exemples avec les grands-parents pour la plupart. C'est moins vrai avec nos parents, mais nos grands-parents avec papa qui travaille, maman qui travaille pas et qui est à la maison. L'image de la femme assez figée. Et aujourd'hui, je fais de la sécu. Les femmes travaillent, sont autonomes, indépendantes.
Donc ils sont désarçonnés.
Complètement, ils sont perdus. Ils sont perdus. Et je les comprends. Les femmes consomment du sexe comme les hommes. Et c'est une bonne nouvelle, hein. Mais pour eux, ça doit être compliqué à gérer. Donc je trouve que ça se ressent sur les réseaux sociaux. Et puis, il n'y a plus vraiment de séduction. Ou alors, je la comprends pas. Donc, j'essaye de m'en amuser. Mais c'est vrai que je suis constamment surprise de tout ça.
Et qu'est-ce qui fait que tu as autant eu de succès, tu vois ? Enfin, selon toi, qu'est-ce qui explique ton succès ? Moi, je t'ai découvert parce qu'en fait, on m'a envoyé une pancarte un jour, tu sais, par WhatsApp. Ma copine me dit, bah si, regarde, c'est son compte. Et je me dis, mais attends, c'est excellent. Et en fait, t'as des sorties. Bon, je citerai, tu vois, certains exemples au montage et tout. Moi, je sais pourquoi tu marches. Enfin, je sais pourquoi ça plaît autant aux gens. Mais toi, tu le vois comment ? C'est parce que t'es cash, parce que tu dis les choses sans filtre et que t'es juste sincère, quoi.
Je crois que je dis la vérité. Je crois que j'essaie de dire la vérité et je parle du quotidien de tout le monde. Quand je parle des hommes qui trompent les femmes, je pense que ça arrive à tout le monde. Le fait de douter, de l'image qu'on renvoie. Je pense que je parle du quotidien et que ça parle à tout le monde. Se sentir moche, ça arrive à tout le monde au moins un matin. Donc du coup, je pense que ça parle à plein de gens et qu'ils se reconnaissent dans mes posts. Et puis c'est parce que ça fait du bien aussi de rire de choses compliquées, même qui nous ont peinés. La tromperie, ça fait de la peine au départ, mais ensuite, il vaut mieux en rire. Et en rire, c'est dédramatiser les choses et l'accepter.
Récemment, j'ai discuté avec un auteur qui a écrit un bouquin qui a eu un prix Goncourt et on parlait de la fidélité et de l'infidélité. Et il me disait, mais en fait, c'est un truc qui a été inventé par les églises pour nous faire, culpabiliser, souffrir, tu vois. Et est-ce que toi, tu crois que ça existe encore, la fidélité ? Ou est-ce que ça a déjà existé ?
Moi, je pense que ça a existé, ça existe. J'ai l'impression que ça ne dure pas. Dans la durée, je crains que ça ne dure pas. Si on était complètement honnête, peut-être que ça serait plus simple pour tout le monde. C'est-à-dire de se dire, écoute, on va s'aimer 3 ans. Parce qu'il y a eu le bouquin « L'amour dure 3 ans », mais où on va s'aimer 5 ans. Ou alors, quand on ne s'aime plus, on se le dit et on arrête. Je trouve ça très honnête de dire un jour... personnellement, ça m'est arrivé de me lever un matin en disant « Bon, je ne t'aime plus. » Et je n'ai pas envie qu'on se crache au visage, d'aller voir ailleurs ou te donner l'opportunité de me tromper parce que je vais être, moi, autre chose. Du coup, je te libère de toute obligation et je me libère. Et du coup, on est dans une autre démarche. Mais je crois que ça existe. Maintenant, c'est le temps. Le temps. Et puis, on est beaucoup sollicités. Les réseaux sociaux, Tinder, les call girls, partout. Non, mais partout, il y a
elles
une possibilité.
Elles sont partout. Tout à l'heure, tu m'as appris qu'elles étaient même sur LinkedIn.
Ouais, elles sont sur LinkedIn. Ça, je le sais d'une source sûre qui et lui se fait aborder sur LinkedIn par des profils de Colgirl. Donc, elles sont partout. Elles sont là. Elles sont prêtes chez nous. Ça fait les envahisseurs un peu, c'est horrible. Mais d'ailleurs, les femmes devraient réagir autrement, je crois.
C'est-à-dire ?
Ça veut pas dire qu'on doit être soumise. À aucun moment j'ai dit ça. Je dis juste que on devrait être plus consciente de ce qui nous attend, ce qui attend nos hommes dehors. Que clairement, mais ça c'est aussi vrai pour les femmes. Hein, mais faire la gueule à ton mec pendant 15 jours, l'hôtel du cul tourné, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Faire ça avec son mec pendant des durées longue, je crois pas que ce soit. Je crois pas que t'obtiennes quoi que ce soit. Mmh. À part le divorce pour faute, mais sinon, je vois.
Il n'existe plus.
Voilà. Non, mais je veux dire, il est tout le temps sollicité, donc ouais. Tu lui donnes pas un truc. Je dis pas qu'il faut. Qu'on s'entende, hein, je dis pas il faut coucher pour garder ton mec, mais je veux dire, si t'es dans la persécution de ton mec parce que tu veux quelque chose ou t'es chiante pendant un mois, si t'es chiante pendant un mois, il y a de fortes chances dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui de dire,
Et en plus qu'il le fasse dans une démarche où il dit, je paye donc j'ai pas trompé ma nana.
Ouais, il y a ce truc-là de consommer. Mmh. On est dans la surconsommation de tout, donc oui, je pense même que pour certains, ils ont le côté, j'ai pas mis d'émotion, donc je te trompe pas. J'ai consommé un truc que tu ne me donnes plus ou que tu ne me donnes pas ou que partiellement. Donc ça devient compliqué. Et je pense que aussi il devrait consulter, c'est à la mode, hein. Ou en tout cas en parler autour d'eux pour comprendre. Je pense que c'est aussi pour se rassurer sur leur virilité et sur leur pouvoir que de faire ça, et peut-être qu'ils pourraient l'avoir à la maison, le pouvoir. Mais c'est aussi dans des rapports où on va plus être.
C'est clair. Qu'est-ce qui t'agace le plus profondément aujourd'hui ?
La bêtise. La bêtise, vraiment. Je nous trouve idiots tout le temps.
Ouais.
Et je trouve ça chiant.
Ouais.
C'est des mots très simples.
Non, mais c'est très enfantin. Attends, mais parce que ça résonne avec un truc que j'ai retrouvé ce week-end, une vidéo de Jacques Brel. Et il dit la bêtise, c'est de la paresse.
Pour certains, je ne crois pas. Hein. Je crois que c'est pire que ça. Je pense que c'est une double peau. Non, je nous trouve stupide souvent. Moi, la première, hein, je trouve qu'on a des réactions qui sont pas intelligentes et je trouve ça chiant. Et si tu prends juste sur l'actu, tu vois, les fake news, je trouve ça dommage qu'on vérifie les infos que le 1er avril. Ça me fatigue. Tu vois,
elle est pas mal ça.
Non, mais c'est fatigant, vraiment. Vous vous rendez bien compte que une info sur deux de Ligonnès là, en gros, j'ai
incroyable.
Moi, ça y est, c'est acté, mais ça depuis longtemps. Mais je trouve que tout le monde devrait avoir cette info de dire bon bah le journalisme aujourd'hui, c'est je préfère être le premier à dire une connerie que le second à avoir la bonne info. Donc, ok, c'est la course à l'info, à la primeur de l'info, et du coup, on dit tout et n'importe quoi. Donc, moi, j'ai envie que tout le monde vérifie chaque info qui sort.
Bien sûr.
Attendre, aller chercher un média opposé pour voir si la véracité des propos. Mais du coup, je trouve ça chiant. Je trouve qu'on s'emballe sur même le racisme, c'est aussi nourri par ça, par des fake news qui circulent sur le net. Oui, il y a un bus de migrants qui a emménagé dans le quartier, du coup on a saccagé une épicerie. Bon bah en fait c'est une fake news, et par contre il y a des gens qui prennent l'info brute et ça va.
Comment tu penses que c'est traité aujourd'hui, justement, le racisme? Est-ce que c'est assez traité? Est-ce que c'est mal traité? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, selon toi, tu ressens quoi?
Là, j'étais fatiguée hein, par le voile, l'islam, tous les jours, sur toutes les chaînes, temps. Moi, j'ai envie qu'on me parle de ma planète, j'ai envie qu'on me parle des lois qu'on décide de voter, dont on ne parle pas. Donc, je trouve que c'est tourner la caméra sur un point de société qui ne représente pas notre société. Et puis, moi, j'ai pas envie de passer mon temps à défendre un truc qui me parle pas vraiment.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need.
Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
En fait, donc je défends la liberté de pouvoir porter le voile en France, ou la liberté de culte, la liberté de porter une kippa, une robe de bonne sœur. Moi, j'ai grandi dans ce pays-là. J'ai pas envie qu'on interdise aux gens de circuler. J'ai envie qu'on me laisse circuler avec mon crâne rasé quand j'avais le crâne rasé. J'ai envie de faire ce que je veux. Mmh. Et du coup, je trouve qu'on débat trop sur des sujets qui sont pas représentatifs. Et après, le racisme, j'aurais pu le subir. Je suis une femme, donc je le subis moins de toute façon, de fait. J'aurais pu le subir parce que je suis métisse de mon père et de ma mère. Mais je crois que...
Je te pose pas la question, mais tu peux dire. Hein, ah ouais, si tu veux dire les origines, mais après t'es pas...
Non, je vais le dire.
Ok.
Enfin si, je vais le dire. Mon père est de Wallis et Futuna, donc c'est une île française, et ma mère est d'origine algérienne. Mmh. Et j'ai grandi donc dans mon village de 1500 habitants, où on m'a accueilli à bras ouverts. J'allais chez ma tata Colette, qui avait une ferme en dessous de chez moi, et jusqu'à temps que je découvre ma vraie famille, je pensais vraiment que c'était ma tata Colette. Et quand mes vraies tatas m'ont demandé quelle est ta tata préférée, j'ai dit ma tata Colette. L'amour, en vrai, il n'a pas de couleur, en réalité. Mmh. Et du coup, je trouve que... moi, d'avoir grandi au milieu de blancs, parce qu'il y avait que des blancs et des enfants d'immigrés, mais italiens, mais c'était tous des blancs. J'ai pas vécu ça comme un traumatisme parce que j'ai adopté la culture française réellement. Et pour moi, c'est ça le problème, c'est que j'ai rien nié. On buvait du thé à la menthe chez moi et c'était pas trop.
Moi aussi.
Voilà. Et c'était pas trop. Ça m'empêchait pas d'aller chanter au club du troisième âge. Pour moi, il n'y a pas d'incompatibilité. C'est juste que il faut mettre de la culture dans les quartiers. Il faut leur donner accès à la culture française, à ce que ça a de riche. Il faut qu'on explique l'histoire aux enfants. Pourquoi à côté d'Antoine à l'école, y a Mohamed et y a Mamadou qui est malien.
Si tu comprends pas le pourquoi, tu peux pas accepter les conséquences.
Voilà. Et du coup, si on explique à Antoine, il va regarder différemment Mamadou et Mohamed autour de lui, parce que son prof d'histoire, il aura expliqué que la France a une histoire avec l'Algérie, avec le Mali, avec plein d'autres pays. Donc,
mais t'as raison là-dessus. C'est vrai. On est en train de passer trop vite sur des trucs. Historiquement, et je pense que ça démarre à l'école.
Donc pour moi, le racisme, il est institutionnel aussi. Enfin, on fait vrai. Rien pour que tout le monde se sente chez soi. Moi, quand on me dit « t'es pas française parce que je suis un peu colorée... »
On te dit ça encore aujourd'hui ?
Oui. Ouais. Mais j'ai des anecdotes rigolotes. Hein. Je suis rentrée de vacances, et c'est vrai que j'étais un peu bronzée en l'occurrence. Et j'ai une dame qui m'a dit « j'étais en train de dire à mon mari « j'adore votre couleur ». Donc j'ai fait un sourire, c'était un compliment. Et elle m'a dit « Mais vous êtes blanche au départ ?» Je lui ai dit « Bah non, évidemment que non. Et j'ai pas d'os dans le nez en plus, donc non, j'ai le nez un peu épaté, je pense que ça se voit. C'est mignon, je trouve ça bête, mais c'est mignon. »
Ouais, c'est pas violent. Enfin,
c'est pas violent, mais violent. Voilà. Ouais. Ça m'est arrivé avec d'autres gens dans la rue, de dire « Ah bah oui, les gens comme vous, là, rentrez chez vous. » Ça m'est arrivé après les attentats, ça m'a fait beaucoup de peine. J'ai pas pu répondre.
On t'a dit ça après les attentats ?
Ouais, le lendemain des attentats.
Dans la rue ?
Ouais, je voulais pas sortir de chez moi parce que j'étais réellement impactée et j'arrivais pas à m'arrêter de pleurer.
Comme moi. Je crois qu'en fait, on a tous eu des chocs.
Je vais pas dire j'ai surréagi, mais ça m'a choqué vraiment. Et j'ai mes amis qui m'ont appelé pour me dire tu devais venir. Je me sens pas de venir, je suis trop triste. Mmh. Et ils m'ont dit écoute, il y a les enfants et ils t'attendent. Donc mon filleul, mes neveux et nièces, viens, ça va te faire du bien de les voir. Donc je me suis décidée à aller acheter un truc pour les petits en fait. Donc je suis sortie dans ma ville à Auxerre et j'ai un monsieur qui m'a dit Ah bah ouais, bah c'est eux là qui se font péter là, les gens comme eux là, rentrez chez vous, en montrant de la main. Et j'ai pas, pourtant je pense que j'ai du répondant et j'ai pas pu répondre. J'ai rebroussé chemin et j'ai rien acheté. Je suis remontée dans ma voiture et quand je suis arrivée, j'ai dit je suis désolée, j'ai pas pu, j'ai pas réussi.
C'est incroyable. Mais en même temps, quand on a des chocs comme ça, je sais qu'on ne peut pas réagir. Enfin, on est bloqué. Bon, même si on est grande gueule. Hein. Moi, je suis la première grande gueule. Il y a des situations où je suis bloquée. Mais bon, c'est effarant. À part la bêtise, justement, donc on vient d'en parler. T'as d'autres sujets, tu vois, genre, t'as des trucs comme ça, je sais pas, t'as des combats perso, des trucs qui te... Tu vois, des combats, en fait.
Je crois que si je fais des blagues aussi, c'est parce que je me suis rendu compte que rire, ça changeait tout. Ça paraît très con, mais on a toujours ri chez moi parce que on se moquait les uns des autres. Il y a eu beaucoup d'autodérision. Enfin, il fallait avoir d'autodérision. Hein, j'ai mis du temps à en avoir d'ailleurs, parce que je pleurais moi dès qu'on se moquait de moi. Et à force, j'ai fini par rire et à accepter les choses. Mais j'ai perdu ma maman d'un cancer et on a décidé de rire. On a décidé de rire et elle avait décidé de se battre. Et elle a eu un cancer qui a gagné d'avance. Hein, elle a eu un cancer du pancréas. Et elle n'a pas voulu être hospitalisée. Donc elle a eu des soins à domicile et c'était chez moi. Et finalement, on a ri. On a fait en sorte de rire. Et au départ, c'est pas évident parce qu'on est très triste. On apprend qu'elle est condamnée et que ça va être... c'est les derniers instants. Mais à partir du moment où on dit il faut profiter de chaque instant... Et qu'on décide de rire, c'est une décision collégiale, ben, tout est moins douloureux. Et il y a de la vie.
Qui transforme le truc.
Dans la mort. Parce qu'on est en train de danser autour de ma mère qui est en train de mourir, mais on rit. Quand elle vomit, les vomis de chimio, hein, qui sont toute la journée, quand elle vomit après avoir mangé un toast à la confiture de framboise. On lui montre son vomi en lui disant « Oh, joli demain, on va manger de l'abricot !» Et ma mère rit. Elle s'évanouit et elle est toute maigre. Et quand elle s'évanouit, on découvre aussi que ça sert à rien de relever les gens, en fait, parce que c'est une chute de tension, donc il faut la laisser au sol. Même si, de fait, on a le réflexe de vouloir la relever, on se rend compte au bout d'un moment qu'il faut la laisser au sol et relever ses jambes pour faire revenir remonter sa tension. Donc quand elle est au sol, son t-shirt est un peu relevé et elle a le ventre plat de quelqu'un qui a que la peau sur les os. Et du coup, elle est au sol, elle me dit non, ça va mieux, attends un peu, deux secondes. Et puis on lui dit tout ça pour nous montrer que t'avais le ventre plat. Tu sais plus quoi faire pour te faire remarquer. Et donc elle rigole et elle dit oui, regarde à mon âge, je suis encore belle. Et elle est par terre au milieu de mon salon. Et si on fait pas ça, on a envie de pleurer parce qu'elle est par terre au milieu du salon et que la situation elle est compliquée. Et ben tout ça, ça me fait dire que rire, ça a été notre bouée de sauvetage. Et ça nous a aidé à traverser tout ça sans passer nos journées à pleurer parce que ça aurait été juste affreux et dur. Là, on a ri. Voilà, on a ri. Elle riait. Et puis on voit. Moi, j'ai envie que les gens comprennent ça. Que si j'ai un combat, j'ai celui-là. Ce serait celui-là, c'est de dire essayer de prendre le positif dans chaque instant. Mon frère m'a dit un truc qui m'a sauvé à ce moment-là, c'est de dire aujourd'hui, on a une bonne journée, et au fur et à mesure de la maladie, bah, on aura plus qu'une après-midi, une matinée, une heure, 10 minutes. Mais il faut à tout prix qu'on arrive à les saisir et à en profiter. Sinon, on va avoir des regrets. Et il a eu raison, et du coup, on a tout fait dans ce sens-là. Et c'était incroyable, vraiment. Mais je trouve ça important d'en prendre conscience, c'est pas bien, je trouve ça important. C'était censé être drôle. C'est complètement raté. Voilà, j'avais pas prévu de te faire pleurer. Du coup, je vais arrêter les blagues et je vais ouvrir un nouveau compte Instagram qui s'appellera Prends ton Kleenex. Et je vais te raconter ma vie et tu vas chialer.
Désolée.
Tout va bien.
Première fois. Hein. Franchement, c'est une première. En plus, je ris pas du tout. Je pleure.
Ouais, tu ris pas. Voilà. Donc, ça tombe bien. Je voulais te dire que j'écrivais un spectacle d'humour.
Comique.
Voilà. Et donc, du coup, venez me voir nombreux. Vous finirez en larmes. Ça va être bien.
Excuse-moi, je suis désolée, mais c'est que ça me touche particulièrement. Le spectacle. Est-ce que tu peux en parler un peu ou pas du tout? Juste nous dire que t'as un spectacle dans le pipe. C'est juste ça.
Oui.
Ok, on n'en parle plus après.
Oui, je... Donc voilà, je prépare un spectacle.
Mais je suis ravie.
sur la connerie, encore, toujours. Voilà, c'est la ligne principale de mes textes. La connerie, donc je vais parler de tout et de conneries, surtout. Donc des rapports hommes-femmes, des femmes, des hommes, de la société, de notre quotidien. Mais je vais essayer d'avoir un regard d'enfant critique. Parce que je crois que c'est ce que je suis un peu au fond, un enfant critique qui comprend pas les choses et qui aimerait qu'on lui explique.
C'est une belle manière de résumer le truc. T'as raison, je pense que parfois on oublie... Enfin, on est enfant à des moments où il faudrait pas l'être et on est adulte à des moments où il faudrait être un peu plus enfantin.
Bah, c'est hyper intéressant, les enfants. Dans les fêtes d'adultes, souvent je m'assois à la table des enfants parce que je me fais moins chier. Je pense que les gens sont pris dans leur quotidien et du coup se prennent au sérieux et on a des discussions un peu... évidemment que ça m'intéresse de parler du pavillon à acheter, mais en vrai, c'est un petit peu chiant. Or que les enfants ont une espèce de spontanéité qui est naturelle et ils posent des questions qui ont plein de sens si on veut bien les écouter, je trouve. Je me suis rasé la tête quand j'ai perdu ma maman, après. Et un de mes neveux m'a dit « Ah, du coup, t'as rasé tes cheveux, tata, parce que comme ça, t'as enlevé un peu de la douleur. » Du coup, il a 7 ans. Du coup, je lui ai dit « Oui, chérie, c'est ça. » Et il m'a dit « Ah ouais, du coup, maintenant, tu te sens mieux, t'es plus légère. » Je lui ai dit « Oui, c'est pas mal, j'aime bien. » Mais c'est con, mais c'est assez mignon. Et après, je l'expliquais aux gens comme ça. En disant « Mais t'avais les cheveux très longs, pourquoi tu t'es coupé les cheveux ?» Bah, je me suis enlevé un peu de douleur.
J'adore.
Les gens devaient me prendre pour une débile, mais je trouvais ça assez réaliste et ils posent des questions.
Ah bah ils sont cash. Enfin ils ont pas de, ils ont moins de filtres que d'autres quoi.
Ça serait bien d'ailleurs qu'on arrête de me les prendre pour des cons, les enfants.
Ah bah alors moi je vais te dire un truc, c'est que je pense que là on a une génération. Enfin je pense qu'ils sont. Moi je suis très très étonnée et puis c'est parti avec la gamine là, sur l'écologie, mais moi quand je suis face à des enfants, on va dire de 10 à 17 ans, et c'est plus des enfants en fait, c'est des adultes. C'est-à-dire que moi à 10 ans, j'avais l'impression d'être un bébé de chez bébé.
Ouais, moi aussi. Ouais.
Mais bah, bébé.
J'en ai parlé une ou deux fois sur Insta. Moi je mangeais de la terre quoi.
Ouais, c'est ça.
Et maintenant, c'est ça. Ils ouvrent un iPad, ils font une recherche, c'est incroyable.
C'est absolument
et d'ailleurs le monde des adultes les accueille pas bien parce que quand on voit la réaction qu'il y a eu avec Greta on a parlé de son faciès et qu'elle avait l'air possédée sans alors oui peut-être que du coup c'est pas une bonne communicante en termes de communication pure et dure comme sont capables de le faire nos politiques mais son message il est concret il est vrai et je trouve ça un peu facile de la tailler sur ses yeux fixes.
Mais c'est parce qu'ils ont une prise de conscience qu'on n'avait pas. Et je pense qu'ils n'ont pas du tout envie qu'on leur laisse la planète dans cet état et qu'ils ont,
Tellement ouvert les yeux. Quand tu vois les perturbateurs endocriniens, les nouvelles maladies
qui sont dans les
femmes,
pilules. Hein.
Ouais. Bah, voilà.
Ça, je pense qu'on ne le dit pas assez. Mais
Non, mais de toute façon, je pense qu'il y a un complot. Il y a un complot contre les femmes. Non, mais ça ne peut pas être autrement. Entre les protections hygiéniques, la contraception. Déjà, au départ, on accouche. C'est-à-dire, quelqu'un qui nous veut du bien, tu vois, il y a mieux comme on se dit jamais « Oh tiens, je me ferais bien un petit accouchement ». Voilà, c'est juste l'enfer. Et en plus, on nous rajoute ça. Des trucs qui nous empoisonnent. Les mecs qui font ça, il faudrait leur dire que par contre, sans nous, ils sont plus rien. Je veux dire, ils vont s'éteindre hein, s'il n'y a plus de gonzesses. Ils devraient en prendre soin de la femme.
Ouais.
Il serait temps.
T'as bien raison. T'as bien raison. T'as des coups de cœur récents ? Je sais pas, ça peut être un livre, un film, une série, une musique, une rencontre, voilà, où tu t'es dit, je sais pas, qu'est-ce que tu lis d'ailleurs ? Enfin, tu lis ? Non ? T'aimes pas ça ?
Si, je lis, mais je lis que des trucs de développement personnel en ce moment.
Ouais, mais très bien.
Parce que je me trouve très très con aussi.
Oh.
Donc du coup j'essaye de m'améliorer et du coup je lis que des trucs de développement personnel et là ouais. Je me suis acheté un bouquin sur les gestes qui vous trahissent.
C'est hyper important, il faut que je le fasse ça. Il faut que je lise un truc là-dessus, je suis pas du tout
informée. Je suis en quête de ça parce que je me rends compte que ce que tu as appelé l'instinct, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. On développe pas suffisamment ce truc-là, parce qu'on est des animaux au départ, donc on appelle ça l'instinct. Mais on est capable de le développer, et du coup...
Ça se traduit dans les gestes.
Ça se traduit dans la gestuelle, ça se traduit dans des regards, enfin, dans des regards fuyants, ça se traduit dans plein de choses. Quand on dit, c'est très féminin, ça veut dire, elle, je peux pas la saquer, mais je sais pas encore pourquoi. Tu vois, c'est physique. Des fois, ils envoient des messages, enfin, des messages forts, physiquement. Et on n'est juste pas capable de les lire. Et moi, j'ai envie de les lire. Ce qui ne va pas m'aider à aimer plus de gens.
Non, je ne vais pas te voir maintenant. Je vais faire comme le coup des vitres.
Voilà, c'est ça. Ça va devenir compliqué, ma vie. Mais j'ai envie de savoir. Et puis, j'ai envie de dire la vérité.
Mais c'est comme hyper intéressant. Non, mais c'est hyper intéressant. C'est mais du coup t'as une référence ou pas? Ou pas du tout?
Ces gestes qui vous trahissent, ça s'appelle.
Ces gestes qui vous trahissent.
Je sais pas le nom.
Ouais, je vois ce que c'est.
Voilà. Je lis des trucs comme ça en ce moment.
Ouais.
Et un livre dont je déteste le titre, mais qui est hyper intéressant.
Ouais.
Mais je déteste le titre.
Les gestes qui vous trahissent?
Non. C'est de Joseph Messinger.
Ouais.
Et je lis un bouquin, mais je cherche à m'acheter une pochette parce que
pourquoi
je le trouve hyper prétentieux de l'avoir dans la main.
Pourquoi c'est quoi ?
Trop intelligent pour être heureux.
Ah non, c'est pas du tout, c'est un fait. C'est un fait.
D'accord, mais tu te promènes dans le métro avec ce bouquin.
Heureux les fêlés parce qu'ils laissent passer la lumière, c'est Coluche.
Oui.
Et donc,
du coup, je préférais qu'ils aient écrit ça sur Coluche. Ouais. Tu vois, c'est moins prétentieux que de se balader avec un bouquin trop intelligent pour être heureux dans le métro.
Non,
j'ai un problème avec ça.
Si t'as trop d'intelligence et que tu te poses trop de questions, effectivement, tu côtoies rarement la joie, en fait.
Mais je suis d'accord avec ça, parce que je suis un clown triste, je crois, au fond.
Parce que si t'as réussi à me faire pleurer, je te confirme qu'il en faut beaucoup.
Non, c'est elle, c'est pas moi. C'est elle, elle était triste avant, déjà, et elle a juste saisi une opportunité de pleurer avec moi. Parce que c'est mieux de pleurer à deux. Voilà. C'est comme ça, c'est pas moi. Vraiment, je refuse. Non, c'est plus que ça envoie un message. C'est la couverture qui est le trop intelligent. Lire un bouquin qui s'appelle Trop intelligent, je trouve que tu envoies un message fort à la société. Ou aux gens qui sont en face de toi.
C'est un bouquin américain à la base ?
Je ne sais pas.
C'est peut-être possible parce que.
Je ne sais pas.
Je vais vérifier l'éditeur. À voir.
Voilà.
Et effectivement, mais une petite, tu sais, comme les enfants, là, les couvertures de.
Ouais, ou une gommette. je vais coller des gommettes dessus et du coup, ils vont se dire, elle est débile. Mais j'ai du mal à me poser.
Honnêtement, je pense que c'est ça. Il faut relever le niveau. Au contraire, il faut se dire qu'on est tous cons et qu'il faut être plus intelligent. J'ai pas dit qu'il fallait se remettre en question permanente, mais moi, je crois qu'on a un vrai sujet de conneries, comme tu le disais tout à l'heure. Tu vois.
Non, mais dans tout, en fait.
Ouais.
Dans tout, dans nos rapports humains, dans nos couples. On y gagnerait tellement à être moins con tout le temps. Je me le dis chaque jour quand je me lève. Sois moins con. Non, mais c'est vrai, les nanas, là, je suis une connasse. Moi, je m'appelle Sarah Connard. C'est un choix, c'est pas j'ai raté le connasse ou je connais pas le féminin de connard. C'est vraiment un choix, c'est-à-dire que je pense être con comme un mec.
C'est intéressant ce que tu dis. Mais oui, je t'ai pas demandé pourquoi tu t'appelais Sarah Connard.
Ouais, bah ouais, je vais faire l'interview toute seule. ouais, Sarah Connard, c'est un vrai choix. C'est pas... Je pense être con comme un mec.
Et c'est quoi d'être con comme une fille?
C'est un stéréotype, c'est horrible. Je me rends compte en le disant. La connasse, c'est surtout à contrario de la connasse. Je déteste cette revendication de nana, là. Je suis une connasse et je m'assume. On a juste oublié que ce mot, c'était une insulte au départ.
Bien sûr.
Et du coup, ça peut pas être une fierté d'être une connasse. Mmh. Du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut... Moi, dans le... ce que j'entends de ce truc-là, hein, c'est ouais, bah, je fais ce que je veux à... voilà, avec un chewing-gum. Je fais ce que je veux et je t'emmerde. Et les mecs, c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est moi qui commande. Et, oui, elle a cette voix pour moi. Mmh. Et du coup, je trouve ça insupportable. Mmh. Et du coup, je crois pas du tout être cette meuf-là. Je suis pas hystérique.
Je te confirme. Enfin, je te connais pas bien, mais je te confirme.
Voilà, je suis pas hystérique, je ne crie pas. Les gens qui crient, ça me gonfle. Et en plus, si tu réfléchis, c'est que quand tu cries, ton message ne passe plus.
C'est évident.
Et moi, j'ai.
Évident.
Et en colère, je ne crie pas. J'ai une colère froide, parce que je veux à tout prix qu'il entende les saloperies que j'allais lui dire. Si je m'embrouille avec un mec, je.
Mais t'as raison.
Et je comprends pas, et je trouve que c'est encore. Donner des cartouches pour tirer sur les nanas, quoi.
Mais surtout qu'il y a plusieurs façons de crier, et je trouve qu'aujourd'hui, il y a des cris, tu vois, en termes de messages, qui bloquent plus le débat qu'autre chose.
Oui, oui, l'hystérie...
Et qui se retourne contre les femmes.
L'hystérie, c'est féminin.
Ah bah oui, c'est l'hystérie. Mais voilà. C'est Freud, en l'occurrence.
Je pense qu'on peut se détacher de ce truc-là. On s'est émancipé, on travaille, les mecs ne savent plus où se trouvent leurs couilles parce qu'on a grandi... Oui, et puis il y a des colères froides. Je répète, il y a des colères froides. Dire à quelqu'un, je suis fâchée, tu m'as manqué de respect et non, je n'ai pas envie de discuter maintenant. C'est pas pareil que de dire, tu vois, tout de suite monter dans les aigus et je trouve ça chiant. Et puis pour moi, c'est un cliché, un vrai cliché. J'ai travaillé avec des hommes. J'ai géré des sociétés, j'ai eu des postes avec un peu de responsabilité, j'ai eu des hommes en plus à diriger et j'ai pas joué l'homme. J'ai toujours été une femme, mais par contre, je crois qu'on a des choses à changer. Être une femme, ça veut dire par exemple travailler avec des hommes, la facilité, ça aurait été d'être dans la séduction.
Bien sûr.
T'obtiens plus de choses avec de la séduction, avec de la douceur. J'ai refusé ce côté-là. Je suis une femme et par mes propos et mon comportement, je vais réussir à avoir une autorité légitime, en tout cas, et je vais être entendue. J'ai pas besoin de rentrer dans ces clichés-là ou de minauder. Je trouve ça détestable et ça marche, évidemment, mais je trouve ça dommage. Si on s'émancipe, on devrait s'émanciper de ça aussi.
T'as raison.
Il y a des hommes qui minaudent, évidemment, mais je veux dire, je parle de ce que je connais en tant que femme. Quoi.
T'as raison. Coup de gueule ou pas à passer ? Un truc en particulier ?
Non, venez, on s'aime un peu. Venez, on s'aime un peu. C'est con, hein ?
Non, c'est pas con.
Non, venez, on s'aime un peu, on fait des efforts. Ou alors, si on s'aime pas, on s'aime pas pour des vrais trucs. On s'aime pas gratos, enfin, je sais pas. Je sais pas comment te dire mieux ça.
Non, mais c'est beau. On peut clôturer.
Voilà, venez, on s'aime, on fait un effort. On s'apprend. On apprend des autres. On a plein de trucs à apprendre des autres. Même des gens que j'aime pas, j'apprends des choses.
Mais je pense qu'on apprend beaucoup plus des gens qu'on aime pas.
Et puis on n'a jamais rien appris des gens qui étaient toujours d'accord avec nous. Donc c'est dans l'opposition. C'est dans... venez, on s'écoute. Venez, on s'aime. Venez, on s'écoute. Et venez, on s'apprend. Voilà. Si je dois conclure, j'ai envie de dire ça. Et on a plein de choses à apprendre de tout le monde. Et on essaie d'être meilleur. Parce que la compète d'Instagram, d'être meilleur que les autres...
Ça nous a cassé.
Ouais.
Ça a cassé des parts d'humanité, quoi.
Ouais, et puis je crois que tu devrais te contenter d'être meilleur que toi et que ce que t'as été hier.
Ouais.
Et c'est déjà un challenge de dingue que d'être une meilleure personne chaque jour. Mais juste pour toi, hein, on vit comme si on n'allait jamais mourir.
C'est nettement plus compliqué. C'est nettement plus compliqué.
Ouais, mais du coup, tu vas te retrouver seule avec toi-même à un moment donné, et si t'es tout pourri, tu seras toi et ton caca, tu vois, et ce sera trop tard pour serrer les fesses, quoi. Donc, viens, on le fait maintenant, parce qu'on va mourir. Et du coup, le jour où on est sur notre lit de mort, on pourra se dire, j'ai fait des trucs pas trop dégueulasses, quand même, tu vois. Donc, venez, on essaie de faire mieux, ensemble.
Sarah, merci beaucoup.
Merci à toi, c'était un génial. Très bon moment.
Ouais, merci.
J'ai beaucoup parlé, je trouve.
Bah, c'était le principe, tu sais.
J'en referai plus jamais.
Merci ça.
Merci.
Merci beaucoup. Avant de vous quitter, sachez que vous pouvez retrouver toutes les notes du podcast sur le site www.reel.fr. Si vous voulez réagir, me contacter ou me proposer des invités, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur Instagram. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie de vous abonner pour recevoir les notifications. Alors je vous dis à très vite pour un prochain épisode.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.